Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack.
Paranoid, et donc on entame la troisième heure de Soundtrack, et c'est une heure hommage, hein, donc je l'annonçais déjà depuis le début de l'émission, une heure hommage donc à Ozzy Osbourne qui nous a quitté le 22 juillet dernier, quelques jours à peine, 15 jours à peine après la dernière prestation donc qu'il avait donnée chez lui à Birmingham, donc avec des tas d'autres rockers, hein, donc ce Back in the Beginning qui sortira d'ailleurs aussi en vidéo, on aura l'occasion d'en reparler, et donc il est tout naturel qu'on lui rende hommage et qu'on lui consacre une spéciale ce dimanche matin. Et cette spéciale, eh bien, je suis ravi de la partager avec Cyril Wilfard. Bonjour Cyril.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble dans Underground, mais c'est la première fois pour Soundtrack.
Merci pour l'invitation.
Bah écoutez, c'est tout à fait naturel, d'autant plus que je pense quand même que c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, donc Ozzy Osbourne nous a quittés à l'âge de 76 ans, et j'avais dit ironiquement le soir même que bah, finalement, c'était pas le soir même parce que c'était le 22 et moi je n'étais à l'antenne que le 23 puisque c'est enregistré, mais j'avais dit ironiquement que il a sacrément réussi sa sortie.
Exactement.
Parce que ben voilà, c'est pas du tout pour se moquer, c'est avec beaucoup de respect, parce que en plus du concert de Birmingham, ben il était encore en rédaction de ses mémoires qui vont paraître ici au mois d'octobre. Et les dernières pages sont consacrées justement à ce concert.
Oui, il parle du concert, il a vraiment écrit tout ça quelques jours avant de passer l'arme à gauche.
C'est comme si c'était dit, voilà, maintenant, c'est terminé, je peux y aller. Donc on va revenir bien entendu sur le parcours d'Ozzy Osbourne.
Et sur sa vie aussi, parce que Ozzy Osbourne, qui s'appelle en réalité John Michael Osbourne, va naître en 1948 dans un quartier ouvrier de Birmingham. Il est entouré d'usines et des stigmates d'une guerre à peine terminée. Et toute son enfance va être marquée par la pauvreté et surtout par une dyslexie, alors non diagnostiquée à l'époque, qui lui vaudra d'être souvent la risée de sa classe. Et toutes les heures passées dans le coin des salles avec un chapeau de cancre sur la tête, c'est quelque chose qui va le hanter jusqu'au bout de sa vie et qui vont le forcer un petit peu à se refermer sur lui-même. Mais c'est aussi aussi à cause, ou plutôt grâce à ses difficultés d'apprentissage, qu'Ozzy Osbourne va très vite développer un trait de caractère qui va le suivre tout au long de sa carrière, celui d'être un petit peu le clown de service. Hein. Il s'arrangeait toujours pour faire rire les grands, les costauds, les caïds de l'école à l'époque, pour s'assurer de cette manière de les avoir de son côté en cas de raillerie ou d'autres coups bas de la part d'autres élèves.
Oui, effectivement, mais c'est finalement une bonne idée que de se servir de ça plutôt que de jouer les caïds. Et là, il avait vraiment véritablement bien compris. Je pense que ça devait être un ami très agréable à fréquenter parce qu'on devait rigoler sans arrêt avec lui.
Ouais, et Tony Iommi en parle encore dans un hommage qu'il a rendu à Ozzy Osbourne récemment en disant, encore pendant les répétitions de Back to the Beginning, on n'arrêtait pas de se chambrer l'un l'autre. On avait vraiment retrouvé cet esprit des années 70. Et Ozzy Osbourne était vraiment quelqu'un de drôle. Et d'ailleurs, dans son autobiographie qui s'appelle I Am Ozzy, qui commence d'ailleurs de manière très drôle, puisque sur la première page du bouquin, quand on l'ouvre, il dit « Je m'appelle Ozzy Osbourne, voici ce dont je me souviens ». Et puis on tourne 2-3 pages qui sont totalement blanches, parce que Ozzy ne se souvient de rien. Et après quelques pages, il commence. Dans cette autobiographie, il raconte qu'un jour, son fils Jack Osbourne lui a demandé « Papa, quand tu passes à la télé, est-ce que tu penses que les gens rient avec toi ou de toi ?» Et Ozzy a répondu « Tu sais quoi, du moment qu'ils rient, ça me va ». Son gamin comprenait pas trop, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu voudrais être un clown ?» Et il lui dit tout simplement « Parce que j'ai toujours su rire de moi-même, c'est l'humour qui m'a maintenu en vie toutes ces années. »
Ouais, c'est la classe. Hein.
Ouais.
Et alors, un autre moment décisif, on va dire en tout cas pour son attirance vers la musique, ça a été la découverte des Beatles. Hein.
Avec le titre « She Loves You » qu'il a entendu pour la première fois à la radio quand il avait 14 ans, plus ou moins. Et depuis ce jour, le jeune Ozzy Osbourne n'a eu qu'un seul rêve, celui de devenir à son tour un Beatle.
Il n'a pas été un Beatle, mais en tout cas nous, on les écoute ce matin. Voilà donc les Beatles à l'instant avec She Loves You qui a donc marqué Ozzy Osbourne, mais ce n'est pas le seul hein, parce que les Beatles à cette époque-là, il y en a beaucoup aussi hein, de futurs rockstars qui ont vu les Beatles à la télévision et ça a été une totale révélation pour eux. Donc voilà, Ozzy a vécu ça également et c'était sa prime jeunesse qui n'a pas été facile et on peut dire que l'école c'était pas trop son truc. Hein.
Effectivement, il va quitter l'école à 15 ans, il va commencer à enchaîner les petits boulots et à 17 ans, il va se faire coffrer pour avoir volé dans un magasin du quartier, direction la prison. Et comme il le dit lui-même, être un jeune homme aux longs cheveux en prison n'est pas une partie de plaisir et 6 semaines en prison suffisent à ne plus jamais vouloir y remettre les pieds. Mmh. Alors, à sa sortie, Ozzy sait une chose, il a une passion dans la vie, c'est la musique et c'est grâce à son papa qu'il aime plus que tout, qui va lui acheter avec ses maigres économies un microphone et une sono, qu'Ozzy Osbourne va publier une annonce dans un magasin de musique de Birmingham. Birmingham. L'annonce dit « Ozzy Zig requires gig », c'est-à-dire « Ozzy le fou a besoin d'un groupe ». Dans cette annonce, il dit « Salut, je suis un chanteur à la recherche d'un groupe. Vous aussi, vous aimez les Beatles et le blues. Ça tombe bien, moi aussi. Et en plus, j'ai ma propre sono ».
Ce qui est assez amusant, hein, c'est que bah, avant de faire la musique qui deviendra donc le heavy metal, bah, c'était, voilà, il reprenait du blues, il reprenait du Otis Redding et des choses comme ça.
Exactement, parce que charmé par cette idée d'avoir un chanteur qui a son propre matériel, les musiciens Tony Iommi, Bill Ward et Geezer Butler vont se rendre chez Ozzy, l'intégrer à leur projet qui à l'époque s'appelle Polka Talk Blues Company, ensuite s'appellera Earth et enfin Black Sabbath. Et ce qu'ils font au tout début, effectivement, c'est du blues, comme en témoigne ici un enregistrement qui date de 1970 d'un show télé allemand appelé le Beat Club et dans lequel Black Sabbath propose une reprise assez enragée du titre de Carl Perkins Blue Suede Shoes. Et notez d'ailleurs que Ozzy Osbourne ne connaît absolument pas les paroles de ce morceau.
Ah ben on va écouter ça.
Classic 21 Soundtrack.
Black Sabbath qui reprend Blue Suede Shoes à l'instant et Ozzy Osbourne, ben voilà, il connaissait pas les paroles, il la chante. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a chanté.
Ah, il a essayé, oui, je pense qu'il s'est laissé porter par la musique.
C'est assez amusant. Ici, on arrive dans les années 70, on va être. Ben déjà, il y a la naissance du nom de Black Sabbath. On va y revenir hein, dans un petit instant. Et puis, il y aura le premier album. Mais il y a eu aussi un concert, donc en 1970, un concert qui s'était donné chez nous au théâtre 140 à Bruxelles. C'était le 3 octobre 1970. Et on va accueillir un auditeur qui était là-bas.
Vous écoutez Classique 21.
Voilà, et donc je suis ravi d'accueillir Patrick Van Nieuwland. Bonjour Patrick.
Bonjour Laurent.
Alors vous avez donc été présent au Théâtre 140. C'était le 3 octobre 1970. Hein, donc ça, c'était le concert que Black Sabbath avait donné. Mais je pense que c'était dans le cadre de... Enfin oui, évidemment, de la tournée. Hein, mais il y a eu d'autres dates qui s'étaient données aussi ailleurs en Belgique.
Oui, effectivement, il y avait eu, ce que j'ai eu l'occasion de rechercher maintenant, il y a une date préalable et le concert avait été annoncé sur Formuji, notamment, de par un enregistrement que Jean-Noël Coz avait réalisé à Lire, si je ne m'abuse. Mm-hmm. C'était au mois d'août, je pense.
D'accord. Ça, on aura l'occasion, parce que vous me l'avez envoyé, donc on va avoir l'occasion d'écouter un petit bout de ça d'ici quelques petits instants. Mais ici, on va revenir sur le concert qui s'était donné au Théâtre 140. Donc, et en fait, vous avez été là. Ben, c'était un petit peu un coup de chance, on va dire, parce que vous étiez un adolescent à l'époque. Hein, vous alliez avoir, je pense, 15 ans. Enfin, c'était ça se jouait
une semaine après le concert.
Ouais, tout à fait. Et c'était grâce aussi à vos parents qui étaient était ami avec avec Joe, j'ai oublié le nom, hein, donc le responsable.
Avec lui, effectivement.
Voilà, qui était responsable
du théâtre 140, ce qui fait que j'ai eu de la chance d'assister quasi à tous les événements et concerts que Joe a programmé. Dieu sait si c'était un découvreur. Donc j'ai eu effectivement énormément de chance.
Ouais, et ça peut aller de, je sais pas moi, Françoise Hardy à
absolument, du tronc, j'ai vu Léopé, j'ai vu Gainsbourg, mais j'étais vraiment gamin à ce moment-là, c'était avec mes parents qui me traînaient là, entre guillemets, et je me rendais pas toujours compte, évidemment, de la chance, puisque ces gens débutaient, en fait, puisqu'ils étaient découverts, et c'était parfois un théâtre 140 qui fait un peu plus de 500 places, qui était aux trois quarts vide,
Et Black Sabbath, vous connaissiez déjà?
Je connaissais de par Formule J, puisqu'à l'époque, c'était une de nos rares sources d'écoute. Et puis également, je faisais partie de ce qu'on appelait, entre gros guillemets, la bande plus rock'n'roll.
Ouais.
Tu vois, donc on découvrait en fait de nouvelles tendances, mois après mois, année après année.
Mmh. Ah, toute une époque, et on en avait d'ailleurs parlé aussi avec Jean-Noël Coge quand il était venu dans l'émission. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant ce concert ?
Mais écoute, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on découvrait un autre style. Je découvrais un autre style de musique, puisque c'était effectivement ce qu'on va appeler par après le heavy metal. C'était surtout la violence du concert. Si tu veux, nous, on sortait, entre guillemets, moi et tous les amis, toute la bande du concert de Genesis, qui avait lieu en mars de la même année à Fermezé. Et puis là, on se retrouvait avec effectivement tout à fait un autre personnage. Et là, je vois bien que c'était excessivement violent, avec Ozzy là, qui se démenait dans tous les sens. On se demandait à certains moments si sa tête n'allait pas se décrocher. tellement non, c'était vraiment très hard. Et alors, un son qui était énorme, puisque Joe a eu pas mal d'ennuis avec le voisinage.
Le voisinage, la police.
La police, effectivement, oui.
Et ce son...
Puisqu'en fait, si tu veux, le théâtre 140 était une enclave dans l'avenue Plaski, et à l'origine, les bâtiments qui l'entouraient devaient servir de bureaux. Et en fait, il s'est passé quelque chose, ce sont des bâtiments d'habitation. Il n'avait pas prévu. Et donc là, effectivement, vu le niveau sonore, il a eu toute la population de la Biplaski qui s'est tournée vers lui.
Et vous, je pense que ce son, justement, cette puissance sonore, ça a laissé des traces chez vous.
Effectivement, c'est un de mes souvenirs, c'est que, heureux d'un autre côté, mais c'est que j'ai attrapé des acouphènes, mes premiers acouphènes, qui ont été déclarés, puisque le conseil était le samedi, le lundi, par mon médecin de famille comme ayant les tympans fêlés. Ce qui m'a valu, et j'étais très content, une semaine de où je n'ai pas dû fréquenter le lycée. Et donc ça correspondait à mon anniversaire qui se déroulait le 10 octobre, donc quelques jours après.
Voilà. C'est un 15e anniversaire qui est vraiment...
Absolument.
C'est quelque chose.
J'étais content de ne plus aller à l'école qui était l'Athénée Adolphe Max, pour ne pas la nommer. Donc j'ai été d'ailleurs Walter de Padua pour la petite histoire.
D'accord. Voilà. Ok. Écoutez, on va écouter un petit bout du document que vous avez envoyé. En tout cas, un grand merci pour votre disponibilité, Patrick.
Avec plaisir. Avec grand plaisir.
Bon dimanche, hein, à bientôt.
Également. Merci beaucoup, à bientôt.
Voilà, donc un petit bout ici du concert, non pas du théâtre 140, mais donc d'un concert à lire qui avait été enregistré à l'époque, donc pour Formule J et donc Claude Delacroix, bien entendu, que l'on salue d'ailleurs au passage. Alors, ça tombe bien parce que ce concert au théâtre 140, il est disponible aussi sur notre site, donc je l'ai regardé, donc vous pouvez le regarder aussi. Ça, voilà, on voit d'entrée de jeu donc Ozzy Osbourne qui fait quelques pitreries, puis ça démarre directement avec Paranoid, un petit peu comme notre séquence ici. Et mon cher Cyril, ça tombe bien donc ici parce que cette séquence avec l'auditeur nous permet justement de venir sur le fait que Earth devient Black Sabbath et tout va partir d'un film.
Exactement, Patrick, l'auditeur nous parlait d'un nouveau son qu'il a découvert au Théâtre 140 et c'est tout à fait le cas. En fait, Earth répète dans un local qui est situé juste en face d'un cinéma et un beau jour, Tony Iommi va partager une réflexion au reste du groupe. Il va dire, est-ce que c'est pas un peu bizarre que les gens décident de payer pour aller voir des films d'horreur? Et du coup, vu que les gens acceptent de payer pour ça, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à écrire une musique qui, elle aussi, est effrayante? Alors, à l'époque, le bassiste du groupe, Geezer Butler, est passionné d'occultisme et il va se plonger directement corps et âme dans ce nouveau concept de musique horrifique. graphique. Earth va devenir Black Sabbath, un nom probablement tiré du film du même nom de Mario Brava sorti en 1963, et leur musique, elle, va être résolument sombre. La plage d'ouverture du premier album du groupe, elle est tout simplement glaçante, surtout grâce à l'utilisation appuyée du triton, ce Diabolus in Musica, cet intervalle très instable dans la musique occidentale qui a tendance à filer la chair de poule à tout le monde. J'étais au Grass Pop au mois de juin et j'ai eu l'occasion de parler à quelques artistes de l'impact qu'a eu Ozzy Osbourne sur leur carrière et sur le monde de la musique en général. Et un musicien belge qui est le guitariste d'Epica, qui s'appelle Isaac Delahaye, me parlait justement de ce fameux triton et disait: je pense qu'énormément de groupes actuels sont vraiment redevables à Tony Iommi d'avoir créé ce, en tout cas d'avoir osé utiliser ce fameux intervalle, parce qu'il a influencé toutes les générations futures. Alors, sans être véritablement conscient de ça, c'est en fait tout un nouveau genre musical que les quatre musiciens britanniques vont décider de créer après un très très court moment de gestation.
Voilà. Et donc ce triton qu'on n'aurait certainement pas dédaigné des grands compositeurs comme Beethoven, comme Jean-Sébastien Bach et j'en passe, bien entendu. Black Sabbath avec Black Sabbath. Black Sabbath avec Black Sabbath sur l'album Black Sabbath. Donc quand on allait chercher le disque, on disait trois fois Black Sabbath. Hein, donc
pour être sûr que le nom rentre, c'est pas mal.
Donc voilà. Alors ici, donc voilà, c'est véritablement la sortie de ce premier album et la naissance de ce style musical que l'on vient d'évoquer.
Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce premier album qui sort en octobre 1970 est un succès immédiat, succès qui va être confirmé quelques mois plus tard à peine par la sortie du deuxième album du groupe Paranoid. En un rien de temps, Black Sabbath va passer de la misère à la gloire, de la poussière des usines à la lumière éternelle de la célébrité, et c'est Ozzy Osbourne qui va devenir le visage charismatique de ce groupe qui à l'époque était certainement le groupe le plus craint de tous les temps. Et bien sûr, avec le succès viennent malheureusement excès en tout genre. Après 9 années et 8 albums, le groupe va se séparer en 1979 de son chanteur. Ozzy Osbourne est tout simplement devenu trop ingérable, et d'ailleurs tout le reste du groupe l'est aussi, hein. C'est devenu vraiment une excuse à une consommation excessive de cocaïne et d'alcool. Ozzy Osbourne va dire: on est passé d'un groupe de rock prenant de la coke à un groupe de coquets jouant du rock. C'est assez équivoque comme citation. Le divorce est assez violent, la chute d'Ozzy est très très dure, et il va plonger dans une profonde dépression.
Et il y a une personne qui va être véritablement déterminante pour son avenir après.
Une femme qui s'appelle Sharon Arden et que maintenant tout le monde connaît sous le nom de Sharon Osbourne, c'était la fille du manager de Black Sabbath à l'époque. Elle connaissait déjà bien Ozzy, ils étaient amis, et elle croit en lui. Elle va lui proposer de se rendre dans les bureaux de la maison mère de Sony Music afin de parler avec eux d'une potentielle carrière solo. Les deux amis ont une drôle d'idée, c'est une idée mais elle est vraiment bizarre, c'est celle d'amener en studio, en tout cas dans la maison de disques, des colombes en signe de paix. Et malheureusement, Ozzy Osbourne, sous l'emprise de drogue et d'alcool, va voir une colombe se poser sur ses genoux. Alors il ne sait toujours pas expliquer son geste, mais il a décidé de prendre cette colombe et de la croquer, il l'a décapitée à coups de dents. Et malgré cet incident qui a construit la légende du Prince des Ténèbres, Sony va accepter de signer un contrat avec l'artiste qui va s'entourer de musiciens absolument extraordinaire pour enregistrer un premier album studio. C'est en Angleterre qu'ils vont enregistrer ça pendant un peu plus d'un mois avec le batteur Lee Kerslake de Uriah Heep, le bassiste Bob Daly de Mungo Jerry ou encore Uriah Heep, et surtout un guitariste prodige, un tout jeune, Randy Rhoads, membre de Quiet Riot. Ensemble, ils vont enregistrer un magnifique album qui s'appelle Blizzard of Oz.
Et donc Randy Rhoads, évidemment, qui a aussi été une étoile filante. On va écouter un extrait, à savoir Crazy Train.
Classique 21, Soundtrack. We'll be right back.
Crazy Train à l'instant. Là, on est donc au début de la carrière solo de Ozzy Osbourne avec déjà des phrases, bah, on l'a largement évoqué ici. Et donc là, on était en 1980 et cet album reste un succès planétaire.
Exactement, tout comme le suivant Diary of a Madman qui est sorti un an plus tard et malheureusement ça va pas durer puisque la tragédie va encore frapper pour Ozzy Osbourne le 19 mars 1982. C'est ce fameux prodige dont on parlait, Randy Rhoads, la nouvelle muse du chanteur qui va décéder dans un accident d'avion. Bah ouais, voilà. Il n'avait que 25 ans.
Malheureux.
Exactement, et c'est un déchirement totalement brutal pour Ozzy Osbourne qui avait trouvé en Randy Rhoads un nouveau souffle et surtout un frère spirituel. Ils faisaient tout ensemble et ils s'entendaient bien alors qu'au début, Randy Rhoads qui était membre de Quiet Riot n'était pas du tout intéressé par l'audition qu'il a fait pour Ozzy Osbourne, mais une fois que les deux ont commencé à jouer ensemble, ils sont vraiment devenus inséparables. Et après le décès de Randy Rhoads, Ozzy Osbourne va retomber dans ses travers. Hein. La seule chose qu'il connaît, c'est quoi pour panser ses blessures ? C'est l'alcool, c'est la drogue, une fois de plus. Et les années 80 vont être vraiment difficiles pour Ozzy Osbourne, qui est déjà une sorte de légende vivante. Et c'est assez dur de vivre avec ça, puisque personne ne lui refuse rien. Et pourtant, il est misérable. C'est un cocktail assez dangereux. Et d'ailleurs, je tenais à souligner l'hommage qui prête à sourire du fort à Alamo suite à l'annonce du décès d'Ozzy Osbourne, puisqu'en 1982, Ozzy Osbourne et Sharon étaient tous les deux dans un hôtel à San Antonio, au Texas. Ozzy Osbourne était, comme d'habitude, complètement ivre. Sharon, sa compagne à l'époque, a eu la bonne idée de cacher l'entièreté de la garde-robe d'Ozzy Osbourne pour s'assurer qu'il ne sorte pas boire pendant la nuit. C'était sans connaître Ozzy Osbourne qui va piquer au final une robe de Sharon pour aller faire une virée nocturne, qui se terminera assez mal, puisque Ozzy Osbourne a une furieuse envie d'uriner, va trouver le premier mur qu'il voit, et malheureusement c'est sur le fort Alamo qu'il a uriné. Donc une fois qu'il a eu terminé sa petite besogne, des agents l'ont braqué et l'ont arrêté. Il a fini sa soirée en prison. Sharon n'est pas venue le sortir de prison puisque le deal était très clair entre eux: si tu y retournes, je ne paierai pas la caution. Ouais. Et du coup, c'est assez marrant de se dire que voilà, il a été banni de San Antonio et au final, le fort Alamo a quand même
rendu hommage.
Ouais. Tout comme PETA d'ailleurs, puisqu'on sait que Ozzy Osbourne, cette même année en 1982, va aussi croquer la tête d'une chauve-souris qui lui est lancé sur scène pendant un concert. Il va d'ailleurs devoir se faire vacciner contre la rage immédiatement après. Et PETA a aussi souligné la mémoire d'Ozzy Osbourne, qui était malgré tout un grand défenseur des animaux.
Oui, alors évidemment, on peut rajouter à ça d'autres frasques, hein, parce que avec le ring, il y a eu d'autres éléments, et notamment avec Tommy Lee, le batteur de Motley Crue. On voit très bien ça dans le film The Dirt, ouais, que je vous invite d'ailleurs à revoir, parce que c'est vraiment un film complètement déjanté. Bon, ça c'était la petite parenthèse, hein, mais c'est vrai que tout ça prête à sourire, mais ça traduit quand même un certain malaise.
Exactement, hein, il va errer pendant plus de 10 ans, mais il va quand même parvenir à proposer pendant tout ce temps des albums de qualité. Et puis c'est surtout en 1990 avec l'album No More Tears et l'arrivée de Zakk Wylde à la guitare en remplacement du guitariste Jake E. Lee que Ozzy Osbourne va retrouver un semblant de stabilité dans une vie plus que mouvementée. L'album sort en 1991. Il est écrit avec l'aide de son grand ami Lemmy Kilmister, leader de Motorhead. Et No More Tears est encore aujourd'hui considéré comme un véritable chef-d'œuvre dans la carrière solo d'Ozzy Osbourne. Je pense à une superbe ballade qui s'appelle Mama, I'm Coming Home et qui résonne aujourd'hui encore différemment pour tous ceux qui ont eu la chance et l'honneur d'entendre Ozzy Osbourne la chanter une dernière fois. C'était le 5 juillet lors de ce fameux concert Back to the Beginning et pendant ses adieux, voilà, il l'a chanté. On peut l'entendre d'ailleurs sur notre site, vous pouvez aller retrouver une vidéo de la voix isolée ouais, d'Ozzy Osbourne. Alors on pense qu'il chante faux, mais en fait non, il est très juste, c'est juste qu'il a la voix complètement prise, nouée par l'émotion. C'était un moment très beau à regarder.
Ouais, il envoyait d'ailleurs aussi des larmes sur les visage des gens du public. On écoute No More Tears. No More Tears dans Soundtrack ce matin, donc hein, toujours pour notre hommage à Ozzy Osbourne. Et là, on est déjà, donc c'est l'album No More Tears aussi. Et il y aura la tournée qui s'appellera également No More Tour, si je me
trompe. Exactement, voilà. Ouais. On peut parler aussi un petit peu de la suite d'Ozzy Osbourne, parce qu'en plus de la musique, on sait que ça va devenir une icône de la pop culture grâce au succès de la série télé-réalité Les Osbournes, hein, qui est diffusée sur MTV entre 2002 et 2005, si je ne m'abuse.
Que j'avais suivi un petit peu, pas tout, hein, mais de temps en temps, voilà, je mettais un épisode et bon, voilà,
c'était rigolo. Et c'était aussi un personnage, on le voit chez lui, il est rarement sobre.
Avec les chiens, les animaux, enfin bref.
Exactement. Mais bon, voilà, on sait très bien que la vie d'Ozzy Osbourne est trop extraordinaire que pour être résumée en une heure ici ensemble. Ouais. On va quand même un petit peu, je vous propose en tout cas de s'attarder sur ces dernières années, parce que on sait que les relations avec les autres membres de Black Sabbath n'ont pas toujours été simples, mais les choses au fil du temps se sont apaisées. À la fin des années 90, le line-up d'origine va se reformer pour quelques concerts avant de lever le pied en 2005, et puis en 2013 de nous faire un cadeau magnifique en sortant un ultime album qui s'appelle 13, et des tournées vont s'en suivre, hein, et leur ultime tournée sans le batteur d'origine Bill Ward, elle prendra fin le 4 février 2017 à Birmingham. Ça n'empêche que sur le côté, Ozzy Osbourne, lui, va continuer encore et toujours à enregistrer des albums. Il va s'entourer du jeune producteur prodige Andrew Watt et tourner jusqu'en 2020, année durant laquelle il va malheureusement révéler être atteint de la maladie de Parkinson et avoir du mal à assurer toutes ses prestations.
Et je précise qu'un des concerts de l'album 13 s'était donné au Zigoudo, mais c'est un concert auquel j'avais eu le plaisir de participer avec, assister avec Laurent Riepy. Et une des premières phrases d'Ozzy Osbourne lorsqu'il est arrivé sur scène, bon, on est à Amsterdam, il y a des effluves, évidemment, et donc il a regardé le public, il a fait « I know fucking Amsterdam ». Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Oui, et donc voilà, mais bon voilà, ici on sait qu'il y a eu ces problèmes de santé, malheureusement cette maladie de Parkinson hein, qui l'a fortement diminué.
Hein. Voilà, et pas que, on sait qu'il y a eu de nombreuses chutes, aussi, il s'est cassé la clavicule, il s'est cassé la colonne vertébrale, plein de choses. Et il ne va jamais s'arrêter, hein, il va sortir au final ce qui sera son ultime album en septembre 2022, Patient Number 9, et c'est au final en apothéose que Ozzy va décider de dire adieu à son public en organisant le 5 juillet dernier un immense concert caritatif qui s'appelle Back to the Beginning. Ça va durer plus de 8 heures, ça va être présenté par l'acteur Jason Momoa, et pendant 8 heures, les plus grandes pointures du genre vont se succéder pour rendre hommage aux pionniers du heavy metal. On avait Mastodon qui a ouvert le bal, il y a eu Lamb of God, les Français de Gojira, Pantera, Alice in Chains, Guns N' Roses, Slayer qui s'est reformé, Metallica, parmi les autres musiciens on peut compter Nuno Betancourt, Tobias Forge, le chanteur de Ghost, Steven Tyler, Sami Hagar.
Prestation remarquable, hein, Steven Tyler.
C'est incroyable, oui. Lui qui avait arrêté parce qu'il s'était cassé la voix, il nous a offert quelque chose. Je ne sais pas s'il a compris où il était parce qu'on a eu droit à du Led Zeppelin, mais pas à Black Sabbath.
Oui.
Mais il a fait ça merveilleusement bien. Et en tout, c'est quand même plus de 30 musiciens qui vont s'unir pour remercier une dernière fois Ozzy Osbourne d'avoir ouvert la voie d'un tout nouveau mode de vie, celle du rock'n'roll sans concession. Et c'est les prestations d'Ozzy Osbourne et de Black Sabbath ce soir-là étaient extrêmement émouvantes. C'est seulement 17 jours après le concert qu'Ozzy Osbourne va s'éteindre entouré de ses proches. Il avait 76 ans, et alors dans la myriade d'hommages qui ont suivi l'annonce de sa disparition, je vais en retenir deux. C'est d'une part le jeune chanteur Youngblood qui avait repris lors de Back to the Beginning une superbe version du morceau Changes de Black Sabbath, et il a promis que dorénavant il interpréterait ce morceau dans tous ses concerts jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est un beau challenge, on espère qu'il pourra l'honorer. Et un autre hommage qui était assez émouvant, c'était celui de son ami de toujours, le guitariste Tony Iommi, qui avoue que Ozzy Osbourne n'avait pas l'air bien pendant les répétitions du dernier concert. Il dit: je pense qu'il a vraiment tenu à faire un ultime adieu à son public, je le pense vraiment, et Geezer Butler et moi on en a parlé hier soir, il a tenu bon pour le faire, et juste après c'était la fin, c'était vraiment la fin. Et il parlait encore d'ailleurs de ses pitreries qu'il faisait toujours. Il disait que voilà, être de retour en 2025 avec le groupe original, le line-up originel pour préparer ce concert, c'était replonger 50 ans plus tôt et retrouver cette même camaraderie qu'il partageait tous ensemble. Et pendant Back to the Beginning, on peut voir d'ailleurs qu'Ozzy Osbourne, qui était un pitre fini, n'arrêtait pas. Il avait qu'une seule envie sur son trône, c'était de se lever. Mais en tout cas, il n'arrêtait pas de rigoler. Il a même balancé un moment de la crème pâtissière sur tous les premiers rangs. Il y avait un petit pistolet à côté de son trône. Il a pu faire le pitre jusqu'au bout.
Il a brûlé ses dernières cartouches pour ce concert. Et donc, voilà, c'est en quelque sorte, il est mort sur scène. On pourrait
exactement,
dire ça comme
ouais.
ça. Hein. Donc, ici, on va refermer avec War Pigs. Ce sera juste après la pause. J'aurai encore quelques remerciements à faire, bien entendu. Mais déjà, merci beaucoup, Cyril, d'être venu ce matin pour parler de ça et puis rendre cet hommage tout à fait mérité au Prince des Ténèbres.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
Classique 21, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Et donc, merci à l'équipe de ce matin, Cyril Wilfard, encore une fois, bien sûr. Merci à Lama, merci à Kylian Hutt, merci à Amandine Aymar. Donc, je vous rappelle hein, tous les dossiers Ozzy Osbourne qui sont disponibles en ligne sur l'app Actu RTBF ou encore sur Ovio. On se quitte directement avec ce Warping. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de Classique 21. Puis rendez-vous dimanche prochain. Ciao.
In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning. Machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, the day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.